Imaginez un peu la scène. On investit des centaines de milliers d'euros pour lancer une marque au Royaume-Uni.
Ouais, le grand lancement international, quoi.
Voilà. L'étude de marché est validée, la traduction du site est enfin et elle est absolument parfaite, les entrepôts sont pleins de produits prêts à partir, on lance la grosse machine, et là...
Et là, c'est la douche froide.
Un mois plus tard, le chiffre d'affaires, c'est un zéro pointé. Rien.
Ah, ça, c'est le scénario catastrophe que toutes les directions marketing redoutent.
Mais pourquoi ça arrive? Parce que Google, dans son infinie complexité algorithmique, il s'obstine à envoyer tous les clients londoniens sur la page d'accueil australienne de la marque.
C'est fou!
Avec les prix dans la mauvaise devise, et ben des frais de port exorbitants.
Et le plus tragique là-dedans, c'est que c'est presque jamais un problème de qualité de produit ou même de prix. En fait, c'est un effondrement purement structurel.
Un problème de plomberie invisible.
Exactement. Dans notre monde ultra saturé d'informations, la façon dont on structure la connaissance, ou un site web en l'occurrence, c'est aussi important que la connaissance elle-même. Si la fondation technique est incompréhensible pour l'algorithme, bah le meilleur produit du monde restera dans l'ombre.
D'accord, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, notre mission pour ce décryptage, c'est de comprendre ces fameux rouages invisibles de l'expansion numérique internationale.
Tout à fait.
Et notre boussole aujourd'hui, c'est un document hyper pointu, le guide complet du SEO multilingue et multipays 2026. Il a été publié par l'agence web Hors-Piste en avril de cette année-là.
Un guide très complet, ouais.
L'objectif de notre exploration, c'est pas de faire un cours magistral, hein. C'est d'extraire la logique implacable des algorithmes pour éviter l'infobésité à ceux qui nous écoutent.
Parce que croire qu'il suffit d'un bouton de traduction automatique pour conquérir le monde, c'est une illusion hyper dangereuse.
Totalement. Et c'est justement là que le guide frappe fort, dès les premières pages. Il met le doigt sur un malentendu énorme.
Ah oui, la fameuse erreur d'aiguillage avant même d'avoir écrit la moindre ligne de code. La différence fondamentale entre cibler une langue et cibler un pays.
Le multilingue versus le multipays. Au début, on se dit, bon, c'est du jargon technique. Mais le document insiste bien, c'est une décision d'affaires absolument critique.
C'est même la décision qui dicte tout le reste. Concrètement, le SEO multilingue, c'est une approche linguistique globale. On crée une version avec une adresse qui finit par FR.
D'accord.
Et cette version s'adresse indifféremment à un Parisien, un Montréalais ou un Genevois.
Et donc on met tout le monde dans le même bateau francophone.
Voilà. Et ça marche très bien, mais uniquement si le produit, le prix, la devise et surtout les coûts de livraison sont strictement identiques partout.
Ce qui est assez rare si on vend des produits physiques. Je veux dire, on ne paie pas du tout les mêmes taxes ou les mêmes frais d'expédition en France qu'au Québec.
Exactement. Et c'est là qu'intervient le SEO multipays. Là, on cible une localisation très précise. On va créer une URL FRFR pour la France métropolitaine et un FRCA pour le Canada francophone.
Ah, je vois. Pour adapter la logistique.
Oui, et la fiscalité, la saisonnalité aussi. Vendre des manteaux d'hiver, bah, ça n'obéit pas du tout au même calendrier à Toulouse qu'à Montréal.
Mais concrètement, est-ce qu'on ne peut pas juste combiner les deux et en finir? Genre une approche ceinture et bretelle, où on cible les pays spécifiques et les langues générales, pour être sûr de rater personne.
Ce qui est fascinant ici, c'est que oui, la majorité des entreprises qui ont une certaine maturité finissent par combiner ces deux approches.
Ah, donc c'est possible.
Oui, mais attention, le risque principal, si ce n'est pas séparé techniquement dès le départ, c'est ce qu'on appelle la cannibalisation algorithmique.
Aïe, et ça se traduit comment ça, pour le moteur de recherche?
Eh bien, Google cherche toujours à donner le résultat le plus pertinent. Si on lance une page française pour la France et une autre très similaire pour la Belgique, sans expliquer la nuance technique...
Google voit double.
C'est ça? Il voit deux contenus presque identiques. Et au lieu d'additionner leurs forces, il va les mettre en compétition.
Ils se battent entre eux, en fait.
Exactement. La puissance de votre site est divisée par deux. Google hésite sur quelle page afficher. Et au final, les deux versions s'effondrent dans les classements face à des concurrents locaux.
Donc on sait qu'il faut absolument séparer le Canada de la France, par exemple. Mais techniquement, on la range où, cette version canadienne?
C'est là qu'on parle d'architecture.
C'est un peu comme l'immobilier.
Ouais.
Le document donne plusieurs options. La première, c'est le domaine par pays. Donc le fameux .fr pour la France, .2 pour l'Allemagne.
Ouais.
Dans mon esprit, ça, c'est construire des maisons individuelles dans chaque pays. Ça fait très couleur locale, ça donne confiance aux voisins.
C'est sûr.
Mais le problème, c'est qu'on doit construire la réputation de chaque maison de zéro, brique par brique.
C'est le gros point noir. L'autorité d'un domaine, ça met des années à se construire. Si le .com principal est super puissant, mais qu'on lance un .it pour l'Italie...
Google le voit comme un nouveau voisin?
Un illustre inconnu, ouais. l'autorité ne se transfère absolument pas entre des noms de domaines différents.
Alors que la deuxième option recommandée, les sous-répertoires, comme monsite.com/fr.
Oui.
Là, c'est beaucoup plus comme construire un immense manoir centralisé où chaque langue a sa propre aile.
J'adore cette analogie du manoir, elle est parfaite. Et pour filer la métaphore, l'autorité SEO, c'est exactement comme un système de chauffage central.
Ah, j'aime bien ça.
C'est pour ça que le guide recommande les sous-répertoires dans presque tous les cas. Le jus SEO, l'autorité, ça irrigue tout le bâtiment. La chaleur de la page française historique va circuler dans les couloirs et réchauffer instantanément la nouvelle aile espagnole qu'on vient d'ouvrir.
Elle profite de la chaleur du manoir entier.
C'est ça, et elle va se positionner beaucoup plus vite sur Google.
Imparable. Mais il y a un mais. Le guide pointe du doigt une troisième méthode, une sorte de passager clandestin du web, les paramètres d'URL.
Ah oui, la fameuse.
Le fameux point langue égale fr à la fin de l'adresse. Pourquoi on utilise encore ça si c'est si catastrophique pour le SEO ?
Parce que c'est un raccourci technique ultra séduisant. Un paramètre, c'est juste un petit bout de code qui dit à la même page de changer de langue dynamiquement. Pour un développeur qui manque de temps, c'est magique.
Mais pour le marketing ?
C'est un désastre.
Pourquoi Google déteste tant ces paramètres langa ?
Parce que ça crée des pièges infinis pour ses robots d'exploration. Quand le robot voit .langue égale fr puis .langue égale en, il voit la même adresse de base et souvent, il ignore carrément ce qui vient après le point d'interrogation.
Il se dit que c'est la même pièce peinte d'une autre couleur.
Exactement. Résultat, une seule version est indexée, le reste devient invisible.
D'ailleurs, en parlant des pièces de notre manoir, il y a un détail qui m'a frappé dans la source. Il ne suffit pas d'avoir une belle aile, pour l'anglais, il faut traduire les panneaux sur les portes.
Les URL elles-mêmes, oui.
Avoir monsite.com en chaussures running, c'est une erreur monumentale.
Absolument. L'URL, c'est un signal sémantique hyper puissant. Google la scanne avant même de lire la page. Il faut impérativement utiliser en running shoes.
Et pas le mot français.
Surtout pas. Mettre du français dans une URL anglaise, ça crée une dissonance. Google se dit, attends, la structure dit anglais, mais le panneau est en français.
Et le doute en SEO, ça se paye cash.
Oh que oui, par une chute dans les classements.
Bon. Notre manoir est construit, les couloirs ont des noms traduits, mais comment Google sait exactement qui doit aller où sans se perdre dans ce labyrinthe ?
C'est là qu'on rentre dans le langage secret des robots.
La fameuse balise hreflang, c'est un peu le boss final du SEO international.
Oui, c'est très technique, mais c'est la clé de voûte.
Le guide prend l'exemple des crampons de rugby. On a la page FR, FR, crampons de rugby, la EN, EN, rugby boots et la ES en espagnol. Il faut injecter du code invisible pour dire à Google « c'est le même produit ».
L'idée, c'est d'éviter la pénalité pour contenu dupliqué, le duplicate content. Google dépense une fortune en électricité pour scanner des milliards de pages.
Son fameux budget de crawl.
C'est ça. S'il voit une page en France et une traduction hyper similaire en Belgique, sans balise, il pense qu'on lui fait perdre son temps et il pénalise. Les balises hreflang lui disent « t'inquiète pas, ce sont des traductions légitimes ».
Attendez, j'ai un petit blocage là-dessus. Si j'ai un site en 5 langues, avec des milliers de pages,
oui.
Ça veut dire que chaque page doit contenir les balises pointant vers les 4 autres pages. Ça a l'air d'être un enfer technique de réciprocité.
Ah, ça chiffre vite, oui.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? C'est gérable ?
C'est un gros défi technique. Mais cette règle de la réciprocité, elle est non négociable. C'est une obligation stricte de Google, comme une poignée de main mutuelle.
Pourquoi mutuelle ?
Voyez ça comme une sécurité. Si la page française dit « ma traduction espagnole est ici », la page espagnole doit répondre « oui, je confirme, on est au même propriétaire ».
Sinon, n'importe qui pourrait voler notre trafic.
Exactement. Sans ça, un concurrent malveillant mettrait un lien vers votre site pour capter votre audience. Donc si c'est pas réciproque, Google ignore tout. Un espagnol pourrait très bien voir la version française dans ses résultats de recherche.
D'accord. L'inspecteur Google veut des preuves. Et le sitemap multilingue, ça sert à quoi là-dedans ?
Au lieu de laisser les robots errer dans les couloirs, le sitemap, c'est le plan complet d'architecte qu'on donne directement à Google via la Search Console. Ça cartographie tout.
C'est génial. Bon, le plan est validé, mais si nous relions cela à une perspective plus large, La technique parfaite, c'est bien, mais si le client humain rentre et que ça sonne faux, le document insiste, la langue ne fait pas la culture.
C'est tellement vrai. La technique amène l'utilisateur, mais s'il trouve un vocabulaire bizarre, il repart. Et ce rebond immédiat, Google le voit et dégrade la page.
L'exemple des métadonnées est super clair. On traduit pas bêtement. Pour les chaussures de randonnée, certains anglophones cherchent « hiking shoes », d'autres « trekking shoes ».
Et si on se trompe de mot, on est invisible.
Et alors, la traduction automatique. Mon Dieu, le guide donne l'exemple de « crampons terrain gras ».
Ah oui, magnifique celui-là.
La machine traduit ça aveuglément par « rugby spikes, greasy field ».
Une absurdité sans nom. Un joueur britannique, il veut des « soft ground boots ». S'il lit « greasy field », il part en courant acheter ailleurs.
Et au-delà des mots, il y a la logistique. Si je suis sur la page allemande en deux et que je lis « livraison 48 heures en France »,
la confiance est rompue. Il faut adapter le message localement. Livraison en 3 jours en Allemagne.
Et pour le maillage interne, les liens entre les pages, c'est pareil. C'est comme une carte de métro locale. On ne met pas une station londonienne sur le plan de Paris.
Très bonne image. Chaque langue est un écosystème fermé. La page FR des crampons pointe vers la page FR des maillots. Jamais vers l'anglaise, sinon on brouille les signaux.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Google regarde aussi les liens externes, le netlinking, pour juger de la nationalité d'une page.
Ah oui, Google marche par cercle de confiance. Si votre page espagnole reçoit des dizaines de recommandations, mais que ça vient de blogs parisiens en .fr...
Google trouve ça louche.
Très louche. Il se dit, si c'est si génial pour l'Espagne, pourquoi aucun site espagnol en .es n'en parle ? Une recommandation n'a de valeur que si elle émane de la culture ciblée.
On doit s'ancrer localement. Bon, on résume. On a le bon contenu, validé localement, dans notre manoir en sous-répertoire, avec les bonnes balises HRF Lang.
Tout est parfait sur le papier.
Mais que se passe-t-il si un utilisateur clique et que la page met 10 secondes à s'afficher ?
Tout ce beau travail est annulé. Fini.
C'est radical. L'expérience utilisateur, l'UX, ça pardonne pas. Le guide parle d'un truc précis, le choix de la langue. Il déconseille fortement la redirection automatique basée sur l'IP de l'ordinateur.
Surtout pas, non.
Mais n'y a-t-il pas un paradoxe ici ? On passe notre temps à mettre des balises strictes pour séparer les pays pour les robots, mais pour l'humain, on doit laisser la porte grande ouverte et le laisser choisir.
Cela soulève une question importante. En fait, la technologie de l'IP, elle manque totalement de contexte humain.
C'est-à-dire ?
Prenez un Français en voyage d'affaires à Madrid. S'il est forcé de lire le site en espagnol à cause de son adresse IP locale, sans pouvoir changer, c'est une expérience désastreuse.
C'est vrai, l'algorithme ne comprend pas l'expatriation.
Donc on suggère la langue avec une petite bannière, mais on laisse toujours un sélecteur manuel bien visible.
Le choix à l'humain. Mais une fois qu'il a cliqué, il y a la physique de l'Internet, la distance. Si le serveur est en France et le client en Californie.
Le signal doit traverser l'Atlantique. Et cette latence, ces quelques secondes, Google les déteste.
C'est là qu'intervient le CDN, le Content Delivery Network.
Exactement. C'est un réseau mondial de serveurs. L'utilisateur américain chargera les images de votre site depuis un serveur relais aux États-Unis, pas depuis Paris.
On annule le problème de la distance géographique.
Et la vitesse de chargement est sauvée, ce qui est aujourd'hui un critère SEO majeur.
Quel voyage on a fait là ! D'une architecture centralisée en sous-répertoire au langage ultra rigoureux des balises HREFLAG jusqu'à l'adaptation culturelle des mots et de la logistique.
Et le tout propulsé par des serveurs CDN.
C'est une vraie symphonie technique.
Oui, mais si on se projette un peu, on peut se poser une dernière question assez provocatrice.
Allez-y.
Aujourd'hui, l'architecture, c'est la science du SEO. Et l'empathie culturelle, c'est l'art. Mais dans un monde où l'intelligence artificielle traduit et adapte déjà le contenu en temps réel, de façon presque parfaite...
L'IA, c'est déjà que les Anglais veulent des « soft ground boots ».
Exactement. Donc le contenu culturel parfait va devenir une norme banale. Et à ce moment-là, est-ce que la structure purement technique, ces balises invisibles, ces serveurs rapides, ça ne va pas devenir la seule véritable ligne de démarcation pour les moteurs de recherche ?
C'est une question vertigineuse pour quiconque veut conquérir le monde numérique. L'illusion du bouton de traduction est morte. Et ironiquement, c'est peut-être cette plomberie technique qui sauvera les marques face à l'IA.
C'est fort probable.
Une vraie réflexion à méditer. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Pour tout le monde qui nous écoute, il faut absolument garder cette curiosité intacte et à très vite pour notre prochaine exploration.